RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Les stars de la musique américaine étaient réunies cette nuit à Los Angeles pour la 61e édition des Grammy Awards. Notre correspondant Philippe Corbet a suivi la cérémonie. On le rejoint dans un tout petit instant. Un des films de la semaine s'appelle Alita Battle Angel, un spectacle époustouflant produit par James Cameron, coup de cœur de Stéphane Boulsock et rendez-vous au 3210. On vous offrira des places pour aller découvrir le film en salle. Au rayon des nouveautés en librairie, le roman d'un amour fou, Les Enténébrés de Sarah Chiche. L'auteur nous le présentera au micro de Bernard Lehu. Et puis à la télévision ce soir, démarrage de la deuxième saison de la série française Zone Blanche sur France 2 à 21h. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Et on retrouve tout de suite en direct des États-Unis notre correspondant. Bonjour Philippe Corbet.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Merci Sophie. D'être avec nous. Voilà, vos camarades vous saluent. Vous avez donc suivi cette nuit la cérémonie des Grammy Awards qui se déroulait à Los Angeles.
Oui, elle était présentée par Alicia Keys. Les Grammys ont été accusés ces dernières années d'être misogynes, mais cette nuit, les femmes étaient à l'honneur. Autour d'Alicia Keys, Lady Gaga, Jennifer Lopez et Michelle Obama. Elle raconte comment la musique l'a portée depuis son quartier pauvre de Chicago où elle écoutait les disques de la Motown jusqu'à la Maison Blanche avec Beyoncé, Who Runs the World, Qui Mène le Monde, Girls, les filles, vous connaissez la chanson. À côté d'elle, donc, Lady Gaga qui repart avec le Grammy du meilleur duo pop pour Shallow du film A Star Is Born, une version glam rock sur scène. On se demande qui a eu l'idée étrange de confier un pot-pourri de la musique noire de la Motown à la chanteuse latina Jennifer Lopez. Heureusement, Smokey Robinson l'a épaulée. Autre légende de la Motown qui n'a eu besoin de personne pour briller sur scène, à quelques semaines de son 75e anniversaire, Dinah Ross. Et les Grammys ont aussi rendu hommage à Aretha Franklin. Hommage plus bref à Charles Aznavour et Michel Legrand. Dans la nouvelle génération, pour la première fois, une femme obtient le Grammy du meilleur album rap, le phénomène Cardi B. Voilà, elle est très connue ici pour ses gloussements, je ne vais pas arriver à vous le refaire. Et meilleure nouvelle artiste, encore une femme, Dua Lipa. Alors Yves, je dois vous avouer que moi j'ai dansé là-dessus cette année, je ne sais pas si c'est votre cas.
Plutôt, vous savez, c'est Yvette Horner ou Emma, c'est pas le même rejet. Éventuellement la farandole.
Alors, la danse des canards.
Pourquoi pas, oui. Alors, qui sont les grands gagnants du palmarès?
Alors, 4 Grammy en tout, dont meilleure chanson, meilleur enregistrement, meilleure vidéo pour This Is America de Childish Gambino. En fait, c'est le nom de scène de l'acteur Donald Glover. This is America, c'est ça l'Amérique, une chanson et une vidéo qui dénonce avec une ironie grinçante les violences racistes qui gangrènent les États-Unis depuis la ségrégation jusqu'à l'attentat dans une église noire. Et puis meilleur album de l'année pour la chanteuse country texane Kacey Musgraves.
Kacey Musgraves, donc album de l'année, et ses chansons des Grammys sont évidemment à retrouver sur le site rtl.fr. Merci beaucoup Philippe d'être resté avec nous et de nous avoir fait passer ces excellents moments. Bonne journée à vous.
Bonne journée à tous.
So tie up the bows, take off your coat.
l'écouterai bien un petit moment, Casey, mais bon, voilà, on va retrouver Isabelle Morini-Bosque, qui elle va nous parler des audiences télévisées du week-end. Bref, ce que nous avons regardé pendant le week-end. À tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
9h06, bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
Qu'avons-nous regardé ce week-end à la télévision avec nos camarades de Médiamétrie ?
Eh bien, que note-t-on vendredi, la faible audience des Victoires de la Musique sur la 2. 2 050 000 téléspectateurs, cette spéciale est donc quatrième seulement derrière le Diversion d'Arthur sur TF1 qui rassemble 3 030 000 fidèles. Magellan et NCIS étant ex aequo ensuite, la 3 et M6. Samedi, c'est encore TF1 qui fait la course en tête avec 5 600 000 personnes devant The Voice. Et là, la une est devant le polar de la 3 Cassandre, classique. Enfin, hier, bah, c'est décidément c'est un bon week-end pour TF1 parce que c'est évidemment Babysitting sur la une qui est en tête. 4 700 000 curieux étaient sur la une, 20% du public. Devant Night and Day sur la 2, autre film, 3 800 000 personnes étaient sur la 2. C'est tout ce que j'ai à déclarer.
Oui, mais on se retrouvera dans quelques instants pour nos programmes de ce soir. Cette musique est celle du film Alita, la dernière production événement de James Cameron qui sort mercredi au cinéma. Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Le réalisateur de Titanic et d'Avatar propose cette fois un conte futuriste sur le thème des robots et de la vie artificielle.
Alors, je vous plante le décor. On est au 26e siècle dans un monde ravagé par une guerre qui a vu la civilisation s'effondrer. Subsiste une mégapole gigantesque qui s'appelle Iron City, la cité de fer, sorte de Babylone moderne où cohabitent toutes les races, obsédée par Zalam, cité aérienne, promesse de richesse et de paix. C'est là qu'un prodige de la technologie, le docteur Ido, spécialiste des corps de synthèse, va découvrir les restes d'une cyborg en très mauvais état. Il répare cette créature qu'il prénomme Alita et découvre une mémoire effacée qui pourrait changer le destin de l'humanité. À partir d'un scénario simple, parfois un brin simpliste, Alita se révèle un spectacle époustouflant sur le plan visuel. James Cameron, qui est donc le producteur, a confié les rênes du projet au réalisateur Robert Rodriguez et lui a offert les services de véritables prodiges des effets spéciaux.
C'est surtout la magie industrielle des artistes impliqués dans ce projet. Ces mecs ont mis la barre très très haut. Il m'est arrivé dans le passé de voir des scènes que j'avais tournées et de dire « Vous avez fini les effets spéciaux là ?» À mon avis, il reste du boulot. Hein. Cette fois, quand je recevais les scènes, je disais « Waouh !» C'est dingue.
That looks fantastic.
Et c'est eux qui me répondaient « Attends, on a encore plein de trucs à rajouter. Ils ont une telle exigence. » C'est James qui m'a convaincu de bosser avec cette société suite au boulot incroyable qu'ils avaient fait sur Avatar. C'est la première fois où, sur un de mes films, j'ai l'impression d'être plus spectateur que réalisateur, comme retombé en enfance. Ce sentiment de voir toutes ces images dont vous rêvez mais qui ne peuvent être filmées, je crois que désormais tous ces rêves sont réalisables.
Une magie qui concerne notamment le personnage d'Alita. C'est la comédienne Rosa Salazar qui l'incarne. Elle a joué toutes les scènes vêtue d'une combinaison spéciale bardée de capteurs qui reproduisent alors non seulement les mouvements de son corps, mais aussi les émotions de son visage. Ensuite, un logiciel reconstruit à partir de tout ça un corps numérique, celui de son personnage.
Pour Avatar, ils ont utilisé un casque équipé d'une caméra. Pour Alita, tout mon costume était truffé de technologie. C'était vraiment le plus moderne qui puisse exister. Et rien que le casque comportait deux caméras haute définition. L'équipe a donc pu enregistrer un maximum d'informations selon la manière dont je me comportais. Et ils me disaient « Sois la plus naturelle possible, tout peut nous servir ». Et en effet, tout est là. Si j'en faisais un peu trop, ils devaient faire avec. Mais ce n'est pas si différent. Bien sûr, j'ai un costume pour la performance capture, mais je fais le même boulot que sur un plateau bien réel.
Alors la réalité, justement, Stéphane, est-ce qu'elle existe un tout petit peu dans ce film qui me semble, a priori, très virtuel ?
Oui, et détrompez-vous, Robert Rodriguez et James Cameron ont certes dépensé une partie des 200 millions de dollars de budget du film à financer ces effets spéciaux, mais ils ont aussi construit une ville bien concrète sur le gigantesque plateau d'Alita, ça se passe au Texas, rue, immeuble, véhicule, c'est aussi ce qui rend plus crédible le fond de l'histoire, basé sur un avenir apocalyptique. Écoutez le réalisateur.
Bien sûr, il y a cette version sombre d'un futur qui nous fait si peur, mais il y a aussi l'espérance qu'elle représente de par sa vision des choses. En fait, elle n'a pas de souvenir attaché à cet endroit lugubre. Elle ne se rappelle de rien, c'est le cadeau de l'amnésie. Donc, elle regarde tout avec des yeux émerveillés, naïfs, voyant l'humanité en toute chose, et ça finit par transformer ceux qu'elle rencontre. C'est cette idée de l'espérance en ces personnes qui changent le monde grâce à leur vision des choses.
Et l'un des artisans de ce changement, celui qu'il provoque en redonnant vie à Lita, c'est donc le docteur Ido, incarné par Christoph Waltz. J'ai demandé à l'acteur autrichien de James Bond dans Spectre ou de Inglourious Basterds et Les Huit Salopards chez Tarantino s'il n'était pas dans le film le fils caché du Geppetto de Pinocchio et du docteur Frankenstein.
That dream.
Ce rêve d'être capable de créer la vie est très ancien. En littérature ou dans les arts, il s'agit souvent de savants fous. Geppetto est en quelque sorte victime des choses, parce que ce qu'il a fait de ses mains est si beau qu'il finit par prendre vie au cours d'un vrai petit
miracle.
Frankenstein, lui, essaye de recréer la vie en électrocutant des chairs mortes, en espérant que ce soit possible grâce à son esprit malade. Ido, quant à lui, a trouvé la vie et va tenter de préserver une âme. C'est exactement l'inverse de Frankenstein.
Toujours sobre.
Toujours, jamais cabot.
Alors, si l'on revenait pour finir au personnage d'Alita, savoir la comédienne Rosa Salazar.
Ben oui, parce que sa tâche est complexe, elle est présente à l'écran, mais elle disparaît évidemment derrière un personnage numérique, créé à partir de son corps, on le rappelle, après le labyrinthe Divergente. Cette actrice de 33 ans, qui nous vient d'Espagne, trouve un nouveau rôle de femme volontaire à qui il vaut mieux ne pas trop chercher des noises.
Je ne crois pas que ce soit un hasard si j'ai fini par jouer tous ces rôles de femmes si fortes. Et c'est celle-ci est particulièrement importante à cause de son parcours. On la trouve dans une décharge publique à son réveil, elle ne sait pas qui elle est. C'est un être insignifiant, qui se sent insignifiant, constamment sous-estimé. Or, je connais exactement ce sentiment. Je l'ai éprouvé souvent en tant que petite femme latino. Alita véhicule l'idée qu'il faut s'imposer pour découvrir qui l'on est vraiment. Et ce faisant, elle va découvrir qu'elle est quelqu'un d'extraordinaire. C'est le message le plus important du film. Et puis franchement, ça fait du bien de voir un personnage féminin botté d'écu. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ?
Rosa Salazar, mais aussi donc Christoph Waltz, Jennifer Connelly ou Mahershala Ali à l'affiche du film Alita de Robert Rodriguez, sorti après-demain au cinéma et en cas de succès, évidemment, une trilogie.
Évidemment. Alors, nous vous offrons des places pour aller découvrir ce film. Pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
Qui est le producteur du film Alita ? Petit indice, c'est tout simplement le réalisateur des tubes des deux plus gros succès de toute l'histoire du cinéma.
Réponse, comme d'habitude, au 32-10. Merci beaucoup Stéphane Boutsock, on se retrouve dans quelques instants. Pour la réponse à cette question. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez rencontré la romancière et psychanalyste Sarah Chiche qui publie aux éditions du Seuil son troisième roman intitulé Les Enténébrés.
Oui, l'un des romans les plus inspirés, les plus troublants sans doute de ce début d'année. Une femme prénommée Sarah, comme l'auteur, psy, comme l'auteur, rencontre lors d'un voyage en Autriche Richard, un musicien célèbre. Ils vont s'aimer, Sarah Chiche.
C'est une femme qui vit avec un compagnon qu'elle aime profondément. Elle ne s'ennuie pas du tout avec lui. Et ils ont ensemble une petite fille dont ils s'occupent le mieux possible. Et ils sont heureux comme cela. Et puis, voilà que, au lendemain d'une nuit sans sommeil où elle a veillé des réfugiés dans une gare autrichienne, elle se retrouve dans un état un peu somnambulique dans un musée. Et là, elle rencontre un homme. Et dès l'instant où ils se voient, ils se reconnaissent l'un l'autre. Il la voit, lui, comme la part perdue de lui-même. Et elle, en un instant, en dépit de leur différence d'âge, voilà, elle est foudroyée. Au fond, elle l'attendait depuis toujours, depuis l'enfance.
Sarah, rentrée à Paris, ne parvient pas à oublier Richard. Extrait. Ni l'amour pour mon compagnon, ni l'amour pour mon enfant, ni le travail, ni le sommeil ne m'ont délivré de vous. Chaque fois que je crois vous fuir, je vous retrouve épouvantée au centre de mon cœur. Vous me manquez jusqu'à la dévastation. Richard rejoint alors Sarah à Paris et la jeune femme entame une double vie entre deux hommes, entre deux amours. Je cite encore. Vous aimez, c'est commencer à mentir et pourtant, je hais le mensonge.
Est-ce que aimer, c'est tout dire ? Et est-ce que aimer, au fond, a grand-chose à voir avec la vérité ? Est-ce que c'est forcément être médiocre que de mentir ? Ou bien est-ce que parfois, mentir ou cacher certaines choses, c'est protéger un être qu'on aime, son compagnon, ou sa femme ou son enfant, pour lui cacher la part du mal en soi ?
Mais est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre le secret et mentir, tromper ?
Alors, dans l'esprit de cette femme, ce n'est pas du tout une tromperie. C'est-à-dire que tromperie, ça suppose d'avoir un partenaire officiel qui est au centre du dispositif et d'avoir un amant qui est à la périphérie. Or, pour elle, il s'agit bien de mener deux vies tout à fait différentes. Tromper, il y a l'idée de trahison dans la tromperie. Quand on regarde souvent dans les tromperies, à la racine d'une tromperie, il y a une humiliation. Or là, elle ne trompe pas Paul pour lui faire payer quelque chose. C'est l'histoire d'une femme qui décide envers et contre tout, quelle que soit l'adversité, tout en sachant qu'elle va se consumer dans cette histoire d'amour avec Richard. Elle décide d'être fidèle à son destin.
Sarah Chiche, en exploratrice intrépide de la passion, met en mots comme personne les élans et les égarements du cœur jusqu'au plus profond de sa complexité, voire de ses paradoxes.
Oui, à un moment donné, se promenant avec sa fille à la sortie de l'école, elles vont faire des courses au marché, et voilà, elle s'aperçoit tout à coup qu'elle est devenue une mère plus attentive avec son enfant. Et de même, le soir, à un autre moment, elle s'aperçoit qu'elle aime mieux son compagnon Paul. On peut s'apercevoir parfois épouvanté qu'on aime mieux l'autre, le plus proche, parce qu'il y a un autre amour secret qui permet d'éclairer tout cela au fond et de nous aider à aimer mieux. Je crois foncièrement que le grand amour, l'amour fou, c'est une grâce. Et quand ça vous tombe dessus, eh bien, ça élargit votre être. Ça vous permet d'aimer plus vastement, non seulement la personne dont vous êtes tombée éperdument amoureuse, mais je dirais votre prochain. Le monde entier d'une certaine façon. Donc, je ne crois pas que l'amour fou nous fasse devenir égoïstes.
Alors, Les Enténébrés, le roman de Sarah Chiche, va très largement au-delà du simple récit d'un amour fou.
Oui, et c'est ce qui donne encore plus d'intensité au livre. L'amour de son double, Sarah, entre en résonance avec son passé, ses ombres et ses fantômes, en particulier une histoire familiale marquée par la folie et la violence, dont a été victime la lignée féminine qui a précédé Sarah, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère.
Parfois, on a l'impression qu'on fait des choses de façon tout à fait volontaire, et en fait, on s'aperçoit après coup qu'on est hanté par le grand théâtre de nos ancêtres, de nos morts, de ceux qu'on a aimés et de ceux qu'on a perdus, mais qui néanmoins continuent à parler en nous. Comment est-ce qu'une fille, par exemple, tout à coup, à son corps défendant, peut se comporter exactement de la même façon que sa mère a pu se comporter 40 ans auparavant ? Sans l'avoir pensé. Comment les fantômes ressurgissent en nous ? La question que je voulais poser, c'est au fond, est-ce qu'on a le pouvoir parfois de casser cette malédiction ? Je veux croire que oui. Je veux croire que oui. C'est un plaidoyer pour la vie, envers et contre tout, le courage de vivre, le courage de se battre.
L'amour comme un acte de révolte contre les malédictions familiales, comme un acte de résistance au chaos du monde, comme l'ultime espace de liberté. Sarah Chiche signe le chant puissant et sublime des amants. Ça s'appelle Les Enténébrés et c'est publié aux éditions du Seuil.
Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans un instant, nous allons parler télévision avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Notre télévision ce soir. Nous commençons, Isabelle Morini-Bosque, par le retour de Zone Blanche, saison 2, c'est sur la 2.
Eh oui, nous sommes toujours à Villefranche, cette zone forestière où rien ne passe sauf les chevreuils et sauf une créature menaçante qui, 20 ans plus tôt, a enlevé et séquestré le jeune major Lorraine. On retrouve ce soir notre gendarmette et tous les habitants de Villefranche, sans oublier le procureur, c'est mon préféré, obsédé par Steiner, l'industriel véreux du coin à la fin de la saison 1. Je résume, puisque les chaînes ne le font pas. Lorraine était laissée pour morte après avoir reçu 3 balles. Elle était mystérieusement sauvée. On la retrouve 2 mois plus tard. À peine rétablie, elle reprend le travail. Alors qu'un nouveau meurtre est commis, c'est la règle, et que le procureur entend déléguer.
Vous êtes deux gendarmes dans une ville où on peut pas ouvrir une porte, on tombait sur un cadavre.
Major, je sais que vous êtes une énigme pour la science, mais vous êtes toujours en arrêt maladie.
C'est à nous de régler cette affaire.
Vos obsessions vous ont déjà beaucoup coûté. J'ai pas envie de vous retrouver en train de chasser je ne sais quel homme imaginaire.
Si ça vous rassure, je passe plus mes nuits dans la forêt.
Je peux pas dire que votre entêtement m'ait manqué. Je vous laisse 48 heures pour trouver du concret.
Voilà, j'aime beaucoup ce feuilleton franco-belge en 8 épisodes qui sent vraiment, alors on le répète, le sapin. J'aime cette idée de zone où rien ne passe. J'aime les personnages attachants. J'aime moins certaines considérations ésotérico-historiques et des images un peu sombres. Si la forêt est un personnage à part entière, ça serait mieux qu'on la voie très bien.
Ah ben on est d'accord. Alors l'autre événement, c'est donc Marie au premier regard, c'est sur M6.
Troisième saison, on rappelle le principe de l'émission. Des célibataires ayant subi des échecs sentimentaux en série se soumettent à des tests scientifico-psychologiques pour trouver l'âme sœur, c'est-à-dire le partenaire ayant le plus de points compatibles avec lui ou elle. Jusque-là, rien à dire ni à redire. Ce sont des tests d'éthologie et de psychologie que moi, je trouve passionnants. Le hic, c'est que le couple déclaré compatible à plus de 80% ne se voit pas jusqu'à la mairie. Il ne s'agit évidemment pas de mariage religieux. Hein. Et s'il se dit oui devant le maire, il y a ensuite cohabitation de plusieurs semaines avant union ou désunion. Autrement dit, on met soit le voile, soit les voiles. Nouvelle venue cette saison, Estelle Dossin. Alors elle, je l'aime beaucoup. Ressemble à Robin White. Psychologue, clinicienne et psy. Vu que ça fait débat, je lui ai demandé si elle avait accepté par véritable volonté d'aider ou par curiosité, comme un entomologiste observe les fourmis.
Oui, je le comprends. Souvent, on confond la compatibilité et la complémentarité. Pour qu'un couple fonctionne, bien évidemment, il faut qu'il soit compatible à minima, mais il faut aussi surtout qu'il soit complémentaire. Moi, ce que j'ai apporté, c'était justement, plutôt que de m'intéresser au pourcentage de compatibilité, c'est de m'intéresser au pourcentage restant. Quand deux personnes sont ensemble, elles s'engueulent jamais pour ce qui va. On s'engueule en général pour les trucs qui vont pas. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que pourquoi ces jeunes viennent faire cette démarche? Souvent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à affronter les pourcentages qui les maintiennent dans une ornière. J'étais un peu en retrait au début, et puis en fait, on se laisse prendre par l'expérience. Les tests sont très intéressants. Quand vous avez une copine, un copain qui est célibataire, vous dites, tiens, c'est vrai, il y a des trucs qui pourraient coller entre eux. Bon, ben là, on a fait un peu la même chose, sauf que c'était des gens qu'on ne connaissait pas. On les a aidés en restant dans un cadre bienveillant, assez protocolaire, et donc on les a accompagnés jusqu'au bout.
Alors, les parents ont souvent les réactions de bon sens du public, et ça c'est très bien. Écoutez cet appel de Marlène, partante et bien partie, à son père.
Oui, mon cœur. Voilà, c'était pour te dire que, comme tu sais, j'ai fait les démarches pour m'inscrire à Marie au premier regard. Donc, c'était pour te dire que, voilà, je vais me marier le mois prochain, donc...
C'est ce que je pense, parce que j'ai l'impression qu'il y a une souris dans un laboratoire, donc voilà, pour faire des expériences, je suis pas trop en force, mais bon, je te dis ça, c'est ton choix, hein, moi.
Justement, le fait d'avoir fait plein de tests scientifiques, d'avoir mis dedans toutes les valeurs que j'avais, est-ce que tu penses pas que je peux trouver justement quelqu'un qui me correspond?
La vie et les relations humaines, c'est pas quelque chose de scientifique, hein. Ça sert à rien, je veux dire, c'est bon, c'est ton choix.
Oui, j'espère que tu seras là quand même.
J'en sais rien, je pense plus rien. Ok, papa.
Pauvre papa. Alors, embrasse ta mère, je pense qu'il allait avoir une explication avec la mère après. Oui. Alors, l'autre avantage, c'est que les célibataires savent expliquer échecs et espoirs. On n'est pas chez les Marseillais ou les Ch'tis, ils sont plus élaborés intellectuellement. J'ai tout de même demandé à Florian, vu qu'il n'y a pas le feu au lac à 37 ans, c'est un candidat, s'il faisait vraiment ça pour trouver quelqu'un ou par pure curiosité médiatique.
Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que j'avais 37 ans et du coup, je me sentais pas vieux, mais je me suis dit, bon, là, moi, il va falloir vraiment se poser, vraiment fonder une famille, etc. Et j'étais très à l'écoute des deux premières saisons. J'avais vraiment envie de vivre cette expérience-là. Donc, en fait, c'est vrai que les deux cumulés m'ont fait participer à la troisième saison. J'avouerai qu'Estelle sait mettre les gens à l'aise. Et du coup, malgré ma pudeur, ça n'a pas été évident dès le départ, mais j'ai réussi à parler, j'ai réussi à me confier. Et c'est vrai que pour ça, je remercie beaucoup Estelle parce qu'elle a été, parfaite. Elle a su comment me prendre. Et c'est de là où on voit que ce sont vraiment de vrais professionnels qui savent vous écouter, quoi.
À vous de juger, à vous de juger. C'est ce soir à 21h05 sur M6.
Merci beaucoup Isabelle. Hier après-midi, j'ai regardé, excusez-moi, je le dis parce que je recommande vraiment de le voir en rediffusion. Il y avait chaud mode d'emploi sur France 5 vers 14h ou 15h. Et alors, c'était quand même l'émission la plus mignonne que j'ai vue dans ma vie. Et notamment des petits labradors, des golden retrievers.
Ah mais oui.
Non mais je peux pas vous dire, c'est exquis. Je crois que je vais le regarder en boucle.
Mais ça marche très très bien en audience. Hein.
Voilà. Excusez-moi, mais j'ai pas pu m'empêcher de vous en parler. Allez, dans un instant, vous saurez si vous avez gagné. Des places pour aller au cinéma. Allez, Toto.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Une question me vient.
C'est pas possible.
Oui. Qui est le producteur du film Alita ?
James Cameron.
Voilà, bah, si vous nous avez appelé au 30 de 10,
voilà,
vous avez tout simplement, bah, voilà, vous avez gagné des places pour aller voir le film de Robert Rodriguez qui vous est chaleureusement recommandé par Stéphane Boutsock. On a une...
Oui, juste un petit truc pour les Grammy Awards, voilà. Mon camarade Steven Bellery. Oui. Un groupe français a été récompensé, donc Justice, album musique électro de l'année pour Woman World. Ouais.
Bah voilà, c'est dit.
Voilà, c'est fait.
Et donc il est grand temps de retrouver Julien Courbet. Bonjour Julien.
Qui lui n'est toujours pas récompensé, mais qui a tort.
Mais vous étiez nommé au moins ou pas?
Non, pas du tout. Ah, c'est pour ça d'ailleurs, je ne suis jamais récompensé parce que je ne suis jamais nommé. Sinon tout va bien, vous avez passé un bon week-end?
Excellent.
Que vous faites beau?
Oh bon, moi j'ai beaucoup dormi, vous voyez, c'est impressionnant.
Il a regardé des petits chiots à la télé.
J'ai regardé des petits chiots à la télévision.
Qu'est-ce que c'est ça?
Des bébés chiens.
D'accord.
On appelle ça des petits chiots.
Oui, ça j'avais compris, mais qu'est-ce que c'est que l'émission en fait?
L'émission s'intitule Chiot mode d'emploi. C'est sur France 5. Vous savez, voilà, chacun son petit moment de respiration. Oh. Et donc, vous avez l'air dubitatif.
Je m'interroge un peu sur ce qu'est votre vie, sur ce que, sur ce que vous allez devenir dans les années qui viennent, et ça ne va pas être beau à voir, à mon avis. On vous retrouverait complètement ivre avec un berger allemand en train de vous dévorer dans votre appartement, qu'on n'en serait pas loin.
C'est une perspective qui ne me déplaît pas, pour tout vous dire. Voilà.
Passez une bonne journée.
Bonne émission.
Merci.